Question d'islam par Al-Bunshir. Aujourd'hui, nous parlons d'anticipation, d'œuvre pour la paix, de réconciliation, de philosophie. C'est dire le champ est très vaste, mais Marie-Hélène Cayol en est capable et je suis extrêmement heureux de l'accueillir. Marie-Hélène Cayol, bonjour.
Bonjour, monsieur Bunshir.
Vous êtes à la fois à la croisée des chemins, au carrefour de plusieurs disciplines. Vous avez fait des études de philosophie, d'islamologie, ce qui justifie votre présence ici, et pas uniquement. Et vous dirigez, allez, on dit maintenant, un think tank, un groupe de réflexion, d'anticipation politique. Et donc, vous présidez ce laboratoire européen d'anticipation politique. À quoi œuvre ce laboratoire européen ?
C'est un think tank, effectivement, qui est un groupe de réflexion qui a été créé en 2007 environ, mais qui est déjà le successeur d'un autre think tank qui s'appelait Europe 2020. Donc nous, en fait, au départ, nos thématiques, c'est l'Europe, la démocratisation européenne et le positionnement de l'Europe dans le monde, ce qui nous amène à parler géopolitique, culture, etc. Et en fait, on travaille sur la base d'une méthode qui est originale, qui s'appelle la méthode d'anticipation politique, qu'on a développée empiriquement et qu'on applique chaque mois depuis janvier 2007, dans le cadre d'une publication qui s'appelle le Global Europe Anticipation Bulletin, qui est vraiment une lecture de l'actualité projetée vers l'avenir. Donc on regarde l'avenir en fonction d'une analyse très 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 fine de l'actualité. Et ça nous a amené donc à travailler beaucoup sur les questions du Moyen-Orient, des évolutions du Moyen-Orient.
Une simple question prosaïque, gouverner c'est prévoir, faire de la politique c'est anticiper, c'est donc avoir une spéculation au sens étymologique, voir au loin pour ne pas être pris en défaut, pour ne pas être surpris.
Oui, tout à fait. En fait, on parle beaucoup aussi d'une société mondialisée, même si aujourd'hui la mondialisation change de forme, elle reste néanmoins mondialisée. Donc une société inévitablement extrêmement complexe et extrêmement lourde à manier, qui nécessite effectivement d'avoir une vision longue et lucide sur la... Nous, on est sur une logique de matérialisme de l'avenir. Beaucoup de prospectivistes sont beaucoup sur l'idée de « on fabrique l'avenir », etc. Nous, on dit qu'il y a une matérialité de l'avenir qu'il faut prendre en compte et qu'il faut savoir surfer pour atteindre ses buts dans l'avenir. Donc, c'est vraiment ça, quelques-unes des caractéristiques. Donc, on questionne beaucoup nos certitudes sur l'avenir. On analyse bien sûr les tendances, mais on essaye surtout de repérer les surprises qui effectivement pourrait arriver et que le décideur doit absolument prendre en compte.
Alors le laboratoire est européen, l'anticipation est politique, nous sommes dans une ère de civilisation mondiale humaine, mais vous appliquez aussi cette recette et vos vues, vos plans à d'autres aires, cette fois-ci AIRE, dans ce monde. Et ce qui nous intéresse, c'est que vous-même avez voulu, avec vos collaborateurs, appliquer, plaquer, si je puis dire, vos idées à une autre région du monde, qui est le Moyen-Orient, proche Moyen-Orient.
Oui, tout à fait. Alors en fait, ça vient quand même de l'Europe. Hein. On a toujours estimé que il y avait une valeur ajoutée au niveau mondial de l'Europe, c'était cette expérience de communauté européenne, hein, de faire travailler ensemble des pays de langues et de cultures différentes, et que l'Europe devait se relier au monde sur une logique de région à région. Donc c'est vrai qu'on a un regard sur le reste du monde qui est très régionalisé, pas du tout nationalisé. Et bien évidemment, c'est donc le Moyen-Orient, entre autres régions, auxquelles on a été bien sûr amené à s'intéresser, aussi du fait de mon intérêt personnel et de ma formation, qui m'a amené bien évidemment à toujours surveiller d'un œil plus attentif ce qu'il se passait dans cette région du monde.
Donc nous allons le découvrir tout au long de l'émission. Vous allez vous-même appliquer à des concepts récents, modernes, dans votre laboratoire, ce que vous avez appris d'une école d'imamologie, je dirais, en tout cas une école en gros du 19e siècle, c'est l'école Sheikhi, des imams du Haut-Décima. On est, je le dis pour les auditeurs, on est en pleine obédience chiite, Et c'est là l'interconnexion entre ce que vous avez appris en islamologie et ce qui vous anime maintenant.
Effectivement, j'ai étudié la philosophie, dans le cadre de la philosophie, l'islamologie, parce que je m'étais intéressée d'ailleurs à la philosophie des religions en général, et particulièrement bien entendu avec ce professeur, Ali Rida Arfa, auquel je souhaite rendre hommage, surtout que je n'ai plus du tout de contact avec lui, j'arrive pas à le retrouver sur Internet. Et donc ces études, ce mémoire d'islamologie sur l'école Shaïri m'a amené à étudier ensuite l'arabe. Et ensuite, c'est le monde arabe qui m'a amené à l'Europe en fait. Et c'est dans ce cadre-là que ensuite dans ce cadre européen que j'ai continué à m'intéresser et à travailler sur la relation euro-arabe au début, euro-méditerranéenne, donc et sur le Moyen-Orient. Et c'est vrai que nos analyses nous ont amené. Alors, c'est toujours difficile de dire qu'on a été les premiers. On n'est bien évidemment certainement pas les premiers, mais en fait, à faire partie vraiment des premiers à anticiper que le Moyen-Orient allait passer par une très grande transformation. C'est toujours intéressant de prendre le recul de la distance, se dire qu'il y a 5 ans seulement, c'est rien 5 ans. Tout le monde disait ça changera jamais le Moyen-Orient. Et nous, en fait, à partir de 2013 au moins, on a commencé à dire il y a ce qu'on appelle des game changers, des changements de donne dans la région. Et notamment, on en a un très simple et systémique au possible, qui est que l'ennemi de la région, qui était Israël, est subitement devenu Daesh et a permis à ce moment-là à Israël et aux pays arabes. À certains pays arabes, à Benjamin Netanyahu de commencer à faire sa diplomatie arabe et d'aboutir avec l'intervention de personnages aussi peu appréciés que Trump, etc. Mais malgré tout, il s'est passé quelque chose de qui a été très sous-estimé, mal vu par les médias en fait, du fait des acteurs en fait qui ont permis cette transition. Mais on a vraiment une transition que nous on estime être extrêmement positive aujourd'hui, qui est enfin cette possibilité qu'a la région de travailler ensemble entre des pays de confessions différentes et d'essayer, voilà. Et c'est là qu'on voit se mettre en place actuellement quelque chose qui nous intéresse beaucoup et qu'on estime être assez proche de ce qui s'est passé au XXe siècle après la Deuxième Guerre mondiale en Europe. C'est la possibilité pour une région de construire justement son union régionale ou sa communauté régionale et de réconcilier les confessions et enfin les religions entre elles et les confessions au sein d'elles-mêmes également.
Si il y a 5 ans de cela, d'aucuns disaient qu'il n'y a rien à y trouver, rien à en tirer de ce Proche-Orient ou de cette région du monde, parce que certains pensaient qu'il y avait une crise systémique et c'était pour des raisons intrinsèques qu'on ne pouvait pas changer. Et vous, vous le démentiez et quelque part, on sait que les soubresauts actuels vont dans le sens de vos prévisions.
Oui, tout à fait. Alors vraiment, quand on a vu les accords d'Abraham arriver, bien sûr, on ne les avait pas appelés comme ça par anticipation, mais c'est exactement ce type de processus qu'on avait anticipé. Et donc, nous, on voit effectivement très positivement cette tendance, même si, bien sûr, on est en route vers des horizons qui sont peut-être à 10 ans, mais qui sont peut-être à 20 ans. Ça dépend quelle crise le Moyen-Orient va encore devoir traverser pour aller de l'autre côté de cette rive, pour atteindre l'autre rive, la rive de la paix. Mais ça y est, le chemin est engagé, en fait. C'est ça qui est vraiment, qui nous paraît très intéressant. Bien sûr, la question palestinienne qui a été contournée pour pouvoir mettre en place cette diplomatie régionale et toujours devant le Moyen-Orient, devant nous, devant le monde, bien sûr. Donc c'est là que il reste encore de l'anticipation à faire, de l'anticipation de crise, bien sûr. Mais voilà, il y a au moins un horizon qui s'est ouvert. Il y a des acteurs qui ont changé. On a une logique d'acteurs de puissance régionale qui a complètement changé.
Et que diriez-vous du cas irakien, fut-il un cas spécifique où le Parlement récemment a voté une loi qui criminalise la normalisation avec l'État d'Israël.
Ben voilà, effectivement, ça fait partie de ces crises qui sont encore devant nous. Mais en même temps, je suis une irréductible optimiste. C'est aussi en Irak que se passe, en revanche, tout le dialogue interconfessionnel, qui travaille sur la réconciliation entre sunnites et chiites. Donc voilà, c'est souvent difficile d'être sur plusieurs dossiers à la fois. Ils en semblent avoir priorisé celui-là. Oui.
L'optimisme est de volonté, le pessimisme est d'humeur. Et il y a cette idée que le paroxysme du réalisme confine aussi au pessimisme. Mais indépendamment de ces considérations,
oui, c'est certain.
À un dialogue interreligieux, il y a un dialogue interconfessionnel et intra-religieux. Voilà. Et vous pensez que le dialogue entre sunnites et chiites est tout aussi prometteur?
Oui. Oui, on tombe maintenant sur des articles qui commencent à dire que la réconciliation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran commence à devenir envisageable. Il y a des articles qui existent que j'ai cherché. Et donc, je pense qu'il y a aussi cet espoir-là.
Parce que
cette fracture entre les sunnites et chiites est très artificielle.
Vous avez bien fait de poursuivre parce que j'allais vous dire que c'est contingent, c'est accidentel dans l'histoire. Certes, il y a des antagonismes, certes, il y a eu un conflit originel qui a donné lieu à ces deux courants principaux. Il y en a d'autres, mais en tout cas, ces deux obédiences sont principales. Mais à travers l'histoire, cet antagonisme n'a jamais été aussi virulent, aussi véhément, aussi violent que ces jours, que ces dernières années. Et donc, le fait de surmonter ce conflit est possible.
Oui, j'estime, je vais peut-être choquer certaines personnes, mais qu'il y a eu, pour des raisons géopolitiques, une volonté de diviser pour régner, qui a été assez efficace et qui a contribué effectivement à fracturer la communauté, l'Oumma. C'est cela que je pense aujourd'hui, nous, dans nos travaux, que nous estimons être en train d'être réparés avec une vraie volonté farouche de nombreux acteurs d'aller dans cette direction-là, d'acteurs majeurs, y compris donc des pays comme l'Arabie Saoudite.
Et l'Arabie Saoudite connaît récemment, ça remonte peut-être à quelques mois ou une année tout au plus, à un véritable travail de déwahhabisation.
Tout à fait. Ça, c'est passionnant, le travail qui est mené, là aussi, beaucoup trop en dessous des radars, parce que c'est vraiment des pistes vraiment prometteuses que ce travail que mène actuellement l'Arabie Saoudite de Mohammed Ben Salman, qui travaille vraiment à la réconciliation interreligieuse, donc vraiment on voit même l'ambassade d'Arabie Saoudite fêter la fin du Ramadan en invitant des rabbins, des prêtres, et parler d'un islam éclairé et qui travaille qui réfléchit à la spiritualité avec les autres religions. Ça, c'est passionnant et c'est plein d'espoir. Il se passe beaucoup de choses d'ailleurs aussi en Europe. J'avais découvert il y a quelques temps parce que nous-mêmes, on pensait que c'était le genre de direction dans laquelle il fallait aller. Les maisons de lin en Allemagne, par exemple, qui sont des lieux où on se dit, puisque le jour de religieux des musulmans, c'est le vendredi, des juifs, c'est le samedi, et des chrétiens, c'est le dimanche, pourquoi ne pas avoir le même lieu pour tout le monde et qu'au moins, ça devienne un lieu qui rassemble, au lieu d'avoir des lieux différents qui divisent, en sachant qu'autrefois, dans des sociétés plus simples, quand il n'y avait qu'une religion, l'église était le lieu où se retrouvaient les habitants d'un quartier, où on créait de la communauté, justement. Donc, recréer de la communauté aujourd'hui, comme les Allemands le font avec ces maisons de lin, je ne sais pas combien il y en a, mais c'est vraiment des expériences qui sont passionnantes et on voit ça partout. On voit la visite, bien sûr, aussi du pape en Irak au début de l'année dernière, des actions multidirectionnelles vraiment dans ce sens. Et je trouve vraiment passionnant ça parce que, en tant justement qu'européenne convaincue, mais convaincue du projet d'origine, pas du tout convaincue de ce qui est devenu l'Europe, je vois vraiment le parallèle entre aujourd'hui ce qui est en train de se passer autour de la religion musulmane, du Moyen-Orient, etc., et ce travail de paix et de réconciliation qui a eu lieu le siècle dernier. Et là, cette fois, je pense que c'est un travail qui a une portée vraiment directement mondiale.
Alors que répondez-vous à ceux qui disent « oui, tout ça est vrai, mais il y a un effet ciseau » parce qu'il n'y a jamais eu autant d'associations, d'organisations qui prônent le dialogue interreligieux et le dialogue œcuménique, interconfessionnel. En même temps, et simultanément, il y a aussi de la haine, de l'exclusion, du repli sur soi et donc du rejet de l'autre, etc. On est à la croisée des chemins.
Oui, mais elle va être longue, la croisée des chemins. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, en anticipation, on s'est rendu compte au début de nos écrits, on écrivait souvent, on est à la croisée des chemins, on est toujours à la croisée des chemins, et donc c'est vrai qu'il y a toujours une incertitude, et puis effectivement, il y a ces grands rééquilibrages, en fait, on part là de loin, hein. Il y a eu le terrorisme, il y a eu des choses terribles, dramatiques, il y a eu la guerre pendant des décennies, il y a eu cette haine qui s'est accumulée, ça va pas partir d'une seconde à l'autre. Mais c'est quand même intéressant justement de se dire que si le processus est effectivement assez proche de ce qui s'est passé en Europe en 45, regardez ce qui s'est passé en 45. Ça permet quand même d'espérer, de voir comment en 10 ans, en très très peu de temps, des acteurs politiques et administratifs, c'était beaucoup des fonctionnaires, hein, les Jean Monnet, etc., c'était même pas vraiment des chefs d'État, etc., ont pu mettre en place un projet qui a permis de passer au-dessus de trois guerres entre l'Allemagne et si on compte celle de 70, la première mondiale, la deuxième mondiale, des inimitiés extraordinaires, et paf, on construit l'Europe direct.
Et donc, quand vous dites depuis des décennies, il y a des guerres, de la déstabilisation, des conflits, en réalité, ça remonte au début du siècle écoulé. Vous faites remonter ça à Laurence d'Arabie et ses sept piliers de la sagesse, à Saïx Picot, à Allenby, à Balfour, à déjà dès cette période-là.
Moyen-Orient, vous voulez dire?
Oui,
ah oui, pour le Moyen-Orient. Non, je pense plus à l'arrivée quand même. Pour moi, le moment clé, même si oui, il y a eu bien sûr l'histoire est souvent histoire de guerre, hein, mais ces guerres qui sont très liées à des stratégies, alors on peut remonter aussi aux croisades, bien sûr, à des stratégies européennes, on va dire, dans la région. Il y a eu ce moment clé quand même de l'installation de l'État d'Israël dans la région, quand même, qui a quand même cristallisé, hein, une problématique dont on est toujours en train d'essayer de se dépêtrer, quoi.
Et après, la fameuse année fatidique de 1979 qui voit un peu plus loin l'invasion soviétique, l'Afghanistan et donc la prise de Kaboul, la venue de Khomeini, l'accession au pouvoir de Saddam Hussein, la prise de la Mecque, la montée du rigorisme wahhabite, la prise des otages américain. Donc cette année charnière de 1979 est particulière dans l'histoire récente du Moyen-Orient.
Oui, c'est vrai que elle en a beaucoup de caractéristiques, d'avoir été, et c'est vrai que c'est quasiment tout du long, effectivement, de 79 à 2000, finalement, les accords d'Abraham, c'est 2020, 2019? Attendez, j'ai un trou, là, c'est ça. Enfin, voilà. Donc, disons, en tout cas,
79, 80. C'est un processus.
Ça fait 40 ans, quand même, hein. 40 ans de piège complet, en fait, pour la région et de.
Et avec cette déwahhabisation, vous partagez l'idée que, tout comme pour l'environnement, le pollueur doit être payeur. Donc, celui qui a diffuser des idées radicales doit aussi œuvrer à les dirimer par toute autre chose. Mais ce rigorisme salafo-wahhabite ou habou-salafite ou salafiste a été tellement bien ancré que le grand virage de 180 degrés prendra aussi du temps, telle la manœuvre d'un grand paquebot dans un port.
Certainement. Mais alors, il y a quelque chose en anticipation, excusez-moi de nouveau, il y a un effet, il y a quelque chose d'intéressant toujours à analyser, c'est les effets générationnels. Et là, je pense qu'il y a aussi quelque chose à l'œuvre de cette nature-là au Moyen-Orient. On pourrait presque, je me suis demandé si on pouvait pas, mais là, je n'ai pas étudié, hein, donc c'est une intuition qui mériterait recherche, c'est s'il n'y avait pas un phénomène baby-boom quelque part au Moyen-Orient actuellement, un petit peu similaire, mais décalé dans le temps, avec ce qui s'est passé effectivement dans les années 60, où là, il y a une génération qui arrive et qui dit « ça suffit ». Il faut vraiment changer complètement de société. Et je pense au Mohamed Ben Salman, mais aussi en Iran, etc. Il y a certainement la même chose, hein, et dans toute la région. Cette énorme génération pleine d'énergie, bon, qui a donné aussi le terrorisme, etc. C'est les mêmes, mais enfin, c'est pas les mêmes. C'est la même génération, mais pleine d'énergie, pleine de volonté de changement, de transformation. Bon, pour le pire au début, mais là, maintenant, d'une manière beaucoup plus concertée, avec des idées beaucoup plus éclairées. Je me demande si même en Arabie Saoudite, ça peut pas quand même aller très vite, hein, ce changement complet et très profond, surtout, c'est par rapport à votre question sur la profondeur du processus. Hein.
On a même changé la date de la fondation de l'État du royaume. Ce n'est plus 1744, qui est le fameux pacte entre Mohammed ibn Abdel Wahhab et les Al Saoud, mais 17 ans plus tôt, puisqu'on est en 1727, Et là, c'est la fondation du royaume sans aucune référence à Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ouais. J'aurais une question, soit l'une, soit l'autre, comme réponse, soit les deux, c'est vous qui voyez. D'aucuns disent, tout simplement parce que ce rigorisme drastique, que ce soit dans sa version sunnite chez les wahhabites ou dans sa version chiite chez les iraniens, des mollahs, et si inconsistant qu'il ne peut pas durer dans le temps, donc il implosera de lui-même, ou tout simplement parce que l'effet générationnel fait en sorte que toute une jeunesse a vu qu'il y a une réelle schizophrénie si on devait sortir du champ saoudien ou iranien. Une schizophrénie dans l'approche du monde, dans la vision du monde. On ne peut pas rester au Moyen-Âge alors qu'on vit au XXIe siècle.
Exactement, tout à fait. Donc c'est irrésistible.
Donc
c'est irrésistible à l'heure d'Internet aussi. En plus, ça aussi, c'est quelque chose qui est quand même très important à prendre en compte. L'Union soviétique s'est cassé la figure, d'après certains, parce qu'à cause de la radio. Imaginez à l'époque d'Internet. Oui, la cassette, oui, c'est vrai, la musique. Mais donc à l'ère d'Internet, voilà, ces générations qui émergent et qui sont connectées à des choses tout à fait différentes des générations précédentes, c'est forcément des révolutions sociétales majeures qui sont inévitables.
تکرار ساده میمیره آسونه آسون با من از رفتن نگو گل باغ آرزو من نمیخوام ببینم توی چشمات غروب و مرگ روزای خوب
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, la facture, en tout cas, moi, pour cette première partie, est d'ordre géopolitique ou géostratégique, en tout cas dans les rapports internationaux, avec Marie-Hélène Cailleul qui préside le laboratoire européen d'anticipation politique. Mais, chers amis auditeurs, c'est qu'elle est aussi une spécialiste de l'école Chaïfri. C'était votre mémoire en islamologie, chère Marie-Hélène Cailleul, que vous avez soutenue avec Ali Reda à Arfa, qui est un des disciples d'Henri Corbin.
D'Henri Corbin, oui.
Le grand Henri Corbin. Alors, comment cette école Chaïri, si vous nous la présentez, a pu, dans ses fondements, dans ses discours, dans son enseignement, a pu vous inspirer pour fonder vous-même ce laboratoire européen d'anticipation politique et d'appliquer sa doctrine, si je puis dire, à cette région du monde et à ce dialogue interconfessionnel et interreligieux?
Déjà, je tiens à dire que je suis quand même vraiment pas du tout une experte parce que voilà, là, je vais parler avec beaucoup plus d'humilité et de modestie.
Car j'ai dit spécialiste.
Spécialiste de l'école Chahiri.
Et je dois dire, pardon, Marie-Hélène oui. Caillolle, en dehors de la boutade, que le spécialiste est celui qui sait presque tout sur presque rien par définition. Et je ne dirai pas ça de vous. Donc, mais globalement, même, voilà. même par touche, un peu à la manière des impressionnistes.
Oui, donc cette école Chahiri, oui, donc voilà, donc je me suis retrouvée à étudier la philosophie, à m'intéresser aux religions, à l'islam et donc au chiisme dans ce cadre-là grâce à monsieur Ali Rida Arfa et donc à rédiger ce et à travailler avec lui alors de manière très très ça a été passionnant, hein, j'avais 20 ans, 22 ans et on travaillait sur des textes inédits, hein, des textes lithographiés qu'il avait récupéré je pense sans doute d'Henri Corbin, des écrits du Cheikh Ahmad Arsaï, fondateur de l'école Chahiri qui sont écrits en arabe, puisque le Cheikh Ahmad Arsaï est né à Bahreïn, donc c'est un arabe en fait, et donc il écrivait en arabe. Donc nous avons traduit ensemble, alors quand je dis traduit ensemble, lui traduisait de l'arabe au français, et moi donc je l'aidais à travailler le style en français, et sur la base de toutes ces traductions, ce travail qu'il faisait lui de son côté avec mon aide, voilà, ça m'a permis d'avoir la matière pour ce mémoire. Donc... bien sûr, c'était une expérience unique de pouvoir être travaillé sur des textes comme ça parfaitement inédits sur une religion très peu connue et effectivement ça m'a toujours aidé ensuite dans la suite de mon travail à avoir une vision assez large bien sûr du Moyen-Orient hein, du Proche et Moyen-Orient et d'intégrer cette question chiite peut-être mieux que ce qu'on fait ce qui est fait classiquement voilà mais avec donc aujourd'hui moi ce qui est intéressant du fait d'avoir fait ce passage par le chiisme, c'est que ça a certainement contribué à toutes les analyses que j'ai faites précédemment avec ce vœu et cette vision de réconciliation. Mais voilà, donc sinon...
C'est pour faire connaissance davantage avec cette école, et je le dis pour nos amis auditeurs, Cheikh Ahmad Arsaï, on connaît très peu de choses de lui. Il serait né à la fin du 18e siècle, donc en gros l'école... prendra son essor avec ses disciples et ses successeurs tout au long du 19e. Et ce qui est, de mon point de vue en tout cas, paraît important dans cette école, c'est le fait de revenir en gros à une sorte d'épolitisation de la religion dans sa version chiite, parce qu'on s'insurge sur le fait que la dynastie safavide a érigé en doctrine d'État ou en religion d'État l'islam dans sa version chiite.
Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que le chiisme a eu peu d'heures politiques. Hein. Il y a eu la période des Fatimides essentiellement. Et puis, effectivement, cette dynastie safavide, qui est au XVIe siècle, en 1501, a décidé que c'était le chiisme duodécimain. Hein. Le Fatimide, c'était le chiisme ismaélien. Donc le chiisme duodécimain voit sa première heure de gloire politique, entre guillemets, mais avec, bien sûr, tous les défauts, toute la perversion, corruption, en fait, d'un dogme, d'une religion qui était restée dans la pure spiritualité et pas du tout dans le champ du politique. Donc effectivement, en termes de 200 ans de safavisme à peu près, et donc de schisme duodécimain canonisé, on va dire, droit canonisé, il y a eu cette volonté de ce Cheikh Ahmad Arsaï de revenir à un sens plus pur de cette religion. Mais donc, c'est d'ailleurs Henri Corbin qui disait que c'était pas un réformateur, c'était vraiment, il souhaitait un rénovateur plutôt.
Un rénovateur qui voulait revenir aux sources dans leur intégrité et intégralité. Alors, d'aucuns disent qu'on a affaire à l'intégrisme ou à l'intégralisme, mais lui, en tout cas, dans son esprit, c'est ce qui a été dévoyé. Encore une fois, c'est la politisation ou l'étatisation, oui. En tout cas la domestication par le politique du religieux et cette rénovation, c'est pas une réforme, mais c'est un retour aux sources qui caractérise l'école.
Oui, tout à fait. J'ai même l'impression que finalement, il y a aussi l'école disparant, hein, qui est l'autre
Alors, elle n'est pas continuatrice, elle s'en distingue.
Mais elle s'en distingue beaucoup, et j'ai l'impression que, parce que l'école disparant a été très œcuménique, elle a beaucoup intégré à la fois le manichéisme, l'avicénisme, tout un tas de...
La théosophie de Sohrawardi.
De Sohrawardi, etc., bien sûr. Et donc, était très universaliste, sans doute. Et lui, j'ai l'impression vraiment que Sheikh Ahmad Ersaïd a aussi souhaité ré-arabiser ou ré-islamiser vraiment le chiisme aussi, qui a eu cet aspect-là, en fait. Donc, à la fois de re-spiritualiser, dépolitiser, ré-islamiser, d'une certaine manière, une pensée qui avait pour caractéristique très forte, hein, puis pendant 8 siècles, hein, je crois, quelque chose comme ça, d'être une religion, pas de pouvoir.
Oui, voilà. Ce qui l'a peut-être même mieux préservé.
Oui, voilà. Oh. L'école Shairi a existé pendant la période de la dynastie Qajar, qui est restée sur le chiisme duodécimain, je crois, mais voilà, et donc qui a perduré jusqu'en 1925. Là, ça s'est arrêté. On a eu la dynastie Pahlavi, donc on a l'école Shairi qui continue d'exister. Et qui en fait disparaît en 1979 avec l'exécution du dernier des chers
en décembre 79
dans le cadre donc de la révolution iranienne. Donc on voit bien là que la révolution iranienne des ayatollahs de Khomeini qui n'est pas du tout intéressé par ce type de chiisme et qui souhaite revenir à un chiisme politique.
Je ne sais plus qui m'avait dit que c'est beaucoup plus proche de la Corée du Nord que du chiisme dans sa version théosophique et spirituelle. Je parle de cette fameuse révolution de Khomeini. Le temps passe, chère Marie-Hélène Cayol, mais d'une manière très sommaire, si vous voulez bien. Quelles sont les grandes lignes de la doctrine de l'école Shairi? Je vous pose la question simplement pour voir comment vous avez pu vous en inspirer pour plaquer, si j'ose dire, cette doctrine sur la région du Proche-Orient et de ce dialogue intra-islamique, interconfessionnel, chiite, sunnite.
En fait, c'est une école qui est assez... Il y a un énorme corpus de textes qui se trouve à Kerman et qui, d'après Henri Corbin, sera environ composé d'un millier d'ouvrages qui sont peu connus, hein, surtout en Occident. Mais on parle quand même de 4 piliers, en fait. Hein, les 4 piliers de l'école Shairi,
c'est... En réalité, 3 et on en a rajouté un 4e.
Voilà, on a rajouté un, c'est vrai. C'est vrai que c'est un des successeurs de Sheikh Ahmad qui a rajouté le El Bab. Oui. Mais il y a
qui
cette idée...
Qui veut dire la porte. La grande porte, la sublime porte.
Voilà. Et donc, les 4 piliers étant le Tawhid. Donc là, le Tawhid, c'est l'unicité de Dieu qui a été poussée très, 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 très loin par l'école Shairi avec cette fameuse théosophie négative. On ne peut rien dire de positif, enfin, de l'être véritablement être. Hein, donc ça, c'est... Mais pour arriver à être sur cette apophasie, l'école Shairi a donc divisé, mais elle n'est pas la seule à avoir fait ça, a donc divisé l'être en 3 niveaux, donc qui est une des grandes caractéristiques donc de l'école Shairi, avec donc l'être véritablement être, el haq, dont on ne peut rien dire, l'être absolu, où là il y a le verbe existentiateur, une espèce de verbe zéro, hein, c'est très intéressant de faire le parallèle avec le zéro en arithmétique, en algèbre pardon, donc qui est ce premier verbe existentiateur, donc l'être absolu, et ensuite l'être contingent qu'on retrouve à ce moment-là au niveau de l'imamologie, de l'âme et de la religion. Donc ça, c'est vraiment des éléments importants. Donc ça, c'est lié à ce premier pilier. Et puis sinon, les deux autres piliers, c'est donc la prophétologie qui a pour objet la connaissance de la mission prophétique, celle de Mohammed en particulier. En particulier, c'est intéressant, le dernier des prophètes. Donc il y a vraiment une intégration. Là aussi, on voit bien la tolérance fondamentale qui a au cœur de cette école, du schisme certainement en général d'ailleurs, hein, je pense. Mais ensuite l'imamologie, donc bien sûr qui est très intéressant aussi d'un point de vue de chrétien de chrétienne que je suis, Henri Corbin faisait le parallèle entre l'imam et la Christ, l'imamologie et la christologie, bien sûr. Avec cette pensée triple, qui est Dieu, l'homme et ses intermédiaires, que sont les prophètes, mais aussi les imams plus particulièrement, avec aussi des notions d'imam intérieur, d'imam occulté, enfin, etc. Donc c'est
L'imamologie, c'est tenir un discours rationnel, intelligent, objectif sur qu'est-ce un imam, la médiation de l'imam. Enfin, l'imam, pas celui qui conduit la prière, c'est le guide de la Oumma, enfin, dans la doctrine chiite d'une manière générale, et dans l'école Shaykhi. Et le quatrième pilier?
Et le quatrième pilier, c'est Al-Bab, donc la fameuse porte, qui là est l'imam de son temps, en fait. Et qui a donné, d'ailleurs, cette branche qui est le babisme, qui est liée directement à l'école Shaïri, où il y a ce personnage, Sayyid Ali Mohammad Shirazi, qui est apparu en estimant être le personnage qu'attendait le Cheikh Ahmad, et son premier successeur. D'ailleurs, je crois que c'est qu'au troisième successeur qui a complètement rejeté, hein. Karim Khan Kermani, qui lui a complètement rejeté cette logique de Bab, d'imam contemporain, qui repolitisait de nouveau quelque part aussi à cet aspect-là, parce qu'en fait, dans le schisme duodécimain, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, cet imam occulté a permis de sortir de cette ecclésia, on va dire, chiite, hein, on sort de cette logique quasiment papale, on va dire, d'avoir un guide temporel et spirituel, en fait. Et là, donc, avec le retour du Bab, bon, même si je crois qu'ils existent toujours.
Alors, il y a, sur un autre plan, les Bahaïs, dont il faudrait dire très vite que ce qu'ils subissent, ceux qui sont restés en Iran comme persécution, est inacceptable. Mm-hmm. Ou ailleurs, d'ailleurs, les êtres humains ont droit au respect absolu et scrupuleux à leur dignité et au respect de leur liberté de conscience. Mais indépendamment de cela, vous avez, si je puis dire, je voudrais pas avoir l'outrecuidance de cautionner cette présentation qui est fort sommaire et pertinente de l'école Shaïri. Et avec Al-Rida Arfa, vous avez aussi travaillé sur le soufisme, à la fois en prenant quelques éléments, mais aussi en le distinguant de cette école, allusion faite au travail considérable, monumental d'Ibn Arabi. Ibn Arabi, on est déjà en 165-1240, on est à cheval sur le 12e-13e siècle, avec l'unicité de l'être. L'unicité de l'être et cette idée qu'il y a un être nécessaire, per se, par soi, alors qu'il y a un être nécessaire par autrui, per altrum, comme on dit, en quoi il y a eu des similitudes et aussi des différences avec le soufisme tel qu'enseigné par Ibn Arabi.
Oui, donc le Cheikh Ahmad faisait souvent, enfin dans les textes nous sur lesquels on a travaillé, faisait souvent, semble-t-il, référence au soufisme et distinguait fortement son dogme à lui de celui d'Ibn Arabi, et notamment sur cette question d'unicité de l'être et donc de toute la démarche mystique. Et en fait, il y a une forme à la fois de mysticisme, donc là ça rapproche, hein, il y a bien le thème de l'âme qui renvoie vers l'être, hein, bien sûr, et qui est un miroir de l'être, etc., de l'être véritablement être, de ce premier niveau ontologique, mais en même temps, le cher Ahmad vraiment estimait qu'il était impossible de se perdre, en fait, dans cette idée que l'âme était un morceau de l'être unique, hein, parce que c'était quasiment ça, Ibn Arabi. Tandis que lui, donc, a vraiment souhaité complètement distinguer l'être supérieur, l'être véritablement être, qui est au-delà de tout, qui est pure transcendance, ensuite, un processus, ce fameux verbe existentiateur, qui d'ailleurs, on retrouve dans les textes cette histoire où donc Dieu pose la question, suis-je votre Dieu, aux âmes virtuelles, et les âmes virtuelles répondent par oui ou par non. Et là, il y a une espèce de rencontre entre l'être absolu et sa création, qui n'émerge qui n'est vivifié que par ce verbe, mais qui est double, qui immédiatement renvoie ces deux niveaux inférieurs de l'ontologie Shaïri, sont très intéressantes avec cet effet miroir. Alors là, en revanche, entre cet être absolu et l'être contingent, c'est l'âme, en fait, hein, c'est l'âme ou l'imam, d'ailleurs c'est intéressant, avec une différence, je trouve, entre l'âme, qui est là vraiment un processus très personnel, très individuel, de rapport à Dieu, d'intuition de Dieu, mais d'intuition avec dont le but est d'aboutir à une certitude, hein, à la foi, vraiment, et en même temps l'imam qui, lui, quand même, a une composante beaucoup plus communauté des croyants. Hein. Il y a à la fois un imam intérieur, mais il y a aussi les imams qui sont ces intermédiaires, ces intercesseurs entre l'être absolu et l'être contingent.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, l'émission est faite à la fois de considérations géopolitiques, rapports internationaux, géostratégie, mais aussi de philosophie chiite, gnostique en tout cas, et selon l'école Chaïki, l'école du 19e siècle, contemporaine globalement avec la dynastie Qajar en Iran. Et vous avez, avec Marie-Hélène Cayol, qui est présidente du laboratoire européen d'anticipation politique, de formation à la fois philosophique et surtout islamologique, qui nous intéresse dans cette émission. Et vous avez évoqué la théologie apophatique, chère Marie-Hélène Cayol. C'est ce qui est négatif, c'est ce qu'on ne peut pas dire ou on ne doit pas dire, ou ce qui n'est pas en ce qui concerne Dieu, contrairement à la théologie cataphatique, ça c'est ce qui est positif. Et là, parce que l'être au-dessus de tout, on n'arrive pas à l'appréhender dans des définitions et avec des adjectifs. Donc on dit en gros ce qu'il n'est pas.
Exactement, exactement. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, donc, ça permet de mettre au-delà de tout, de toute pensée intellectuelle. Hein. Éventuellement, l'imagination peut être un outil pour atteindre une certaine intuition de cet être véritablement être, de ce premier niveau ontologique. Mais sinon, effectivement, on n'en dit que des choses... Enfin, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Mais en même temps, le qualificatif est là, en fait. Ça permet quand même déjà de dire des choses qu'il n'est pas. Mais donc, on crée un monde. Il y a quelque chose de créateur, de démiurgique dans le fait de dire de nier tout ce qu'il est, tout ce qu'il n'est pas, je crois, de dire tout ce qu'il n'est pas.
Alors d'aucuns disent sans vouloir faire étalage d'une vaine érudition, que ce n'est pas tant la théologie apophatique qu'une approche d'aphérèse, c'est-à-dire de faire preuve d'abstraction que de faire preuve de négation en ce qui concerne Dieu. C'est parce que comme on n'arrive pas à le concevoir, on dit en gros ce qu'il n'est pas. Et d'ailleurs, il y a des passages coraniques qui disent « Gloire à celui qui est au-dessus de tout qualificatif, ce que les yeux n'appréhendent pas, ce que l'entendement humain n'arrive pas à cerner. »
Oui, tout à fait.
Alors, Marie-Hélène Cayol, si on reboucle les choses, là aussi, cette approche apophatique des choses vous a aidé dans votre vie de tous les jours et dans vos recherches d'anticipation?
Peut-être. Ça serait intéressant de voir quel lien il a pu se produire dans mon esprit entre cette période très particulière de ma vie où effectivement je me suis plongée dans une spiritualité, une forme d'intelligence quand même qui m'a beaucoup fascinée, mais dont je suis ressortie complètement ensuite. Et malgré tout, c'est vrai que je retombe aujourd'hui dans toutes les réflexions que nous menons dans le Laboratoire européen d'anticipation politique sur notre méthode. C'est des formes de philosophie de l'avenir qui sont pas inintéressantes finalement. Peut-être vous me donnez là un thème, essayer de voir comment cette transcendance, toute cette réflexion sur comment on fait pour parler de quelque chose dont on ne peut pas parler, et un peu l'avenir, n'est-ce pas un peu la même chose finalement? Il y a, surtout que nous, c'est une chose qu'on dit toujours, c'est que l'avenir est un territoire qui est resté très longtemps dans beaucoup de cultures tabou. Un territoire interdit. Là aussi, on avait le droit, d'ailleurs, en arabe, Inch'Allah, qui évoque le futur, ou en espagnol, si Dios quieres, on a bien un territoire qui appartient à Dieu, qui est assez, où il y a beaucoup d'arrogance à oser se prononcer. Et peut-être que d'ailleurs, on ferait bien de se poser des questions, même moi, c'est des questions que je me pose actuellement, sur savoir si finalement, il n'y a pas effectivement beaucoup d'arrogance à oser parler de l'avenir. Mais on est bien obligé de le faire.
En tout cas, essayer de projeter dans une prospective. Il y a de l'arrogance, mais on ne peut pas rester, me semble-t-il, dans une vision un peu fataliste des choses, du genre « advienne que pourra ».
Exactement, on ne peut plus, on ne peut pas. Voilà, on ne peut pas, mais c'est quand même une vraie question parce que l'une des raisons pour lesquelles le territoire à venir est tabou, c'est qu'effectivement, il a tendance à rendre fou hein, quand même et à être un territoire de manipulation politique idéale. Et donc c'est vrai que c'est dangereux, c'est un petit peu hein, bah, effectivement comme ce qu'on lit dans l'alchimie d'ailleurs de l'école Shairi ou des choses comme ça ou toute la voilà c'est on ne peut pas aller au-delà d'un certain niveau de connaissance sans brûler en fait, sans s'embraser, sans disparaître.
Et vous n'êtes pas en train, je parle de votre laboratoire européen d'anticipation politique, je dis le mot uniquement dans son sens étymologique, vous n'êtes pas en train de prophétiser, bon, en grec prophétiser c'est parler devant et avant une assemblée, vous parlez devant une assemblée et vous parlez avant les autres, c'est prédire au sens étymologique du terme, et donc c'est un travail encore une fois, d'anticipation. On peut se tromper comme on peut ne pas se tromper. Les prophètes, a priori, selon la doctrine classique, ne se trompent pas. En tout cas, ils sont des mortels parmi les mortels.
Parce qu'ils sont inspirés directement par, par le chef.
et le cas de l'imamologie, parce que c'était intéressant ce que vous disiez de cette intermédiation qu'on ne trouve pas dans le cas sunnite. Dans le cas chiite, il y a... un parallèle à établir entre la christologie et l'imamologie. Henri Corbin l'a très bien théorisé, mais d'autres aussi en parlent. Pensez-vous qu'il y a une sorte de divinisation dans certains cas de l'imam? Je parle du grand imam.
J'ai pas l'impression, alors là, pour le coup. Non, 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 je pense que justement, en tout cas de ce que j'ai vu de l'école Chagrin, etc. Au contraire, il y a une très grande attention qui est portée au fait de pas tout mélanger, et c'est pour ça qu'il y a cette importance de ce Dieu transcendant, sans anthropomorphisme aucun, qui est vraiment probablement en référence d'ailleurs avec le christianisme. Hein, je pense que on est la religion d'après le christianisme, et la grande différence, c'est peut-être celle-là. Je ne sais pas si effectivement dans le chiisme c'est aussi fort, mais en tout cas le chiisme. Celui que j'ai étudié, pousse à l'extrême, bien sûr, ce qu'on a dit, cette transcendisation de l'être supérieur. Et l'imam reste un intermédiaire, mais de manière... En tout cas, dans l'école Chaïri, c'est très, très clair. Il est même vraiment au milieu. Il y a une image très intéressante qui est utilisée par Cheikh Ahmad, où de la lumière, existence, et de la quiddité des ténèbres, deux triangles, donc avec le triangle de la quiddité qui... avec la base, bien sûr, vers le bas, la lumière avec la base vers le haut. Et en fait, ces deux triangles s'interpénètrent dans une réalité création où il n'y a finalement aucun point qui est pure lumière ou pure obscurité. Il y a toujours un peu de lumière et un petit peu d'obscurité. Et le niveau qu'ils appellent le Araf, qui est le niveau des imams, est exactement au milieu, là où lumière et ténèbres sont à l'équilibre absolu. Donc on est très très loin, l'imam est très très loin en dessous de la divinité.
Bien, Marie-Hélène Cayol, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous remercie infiniment de nous avoir éclairés à la fois en nous présentant l'école Chaïri et ses quatre points principaux et comment cela vous a aidé, vous a inspiré à le rendre actuel dans votre laboratoire européen d'émancipation politique dont vous êtes la présidente, et vous nous dites donc que ce qui se passe au Proche-Orient, au Moyen-Orient, c'est un peu ce qui s'est passé en Europe à la sortie de la Seconde Guerre mondiale.
Je l'espère. Mais juste, vous avez tout à l'heure fait ce parallèle, en fait, entre effectivement ces études que j'ai faites et ce travail de l'anticipation en parlant de prophétiser. Je vous remercie parce que là, ça, vous m'avez mis en mouvement sur une réflexion qui j'aurais pu penser. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup de cet échange et de m'avoir invité dans votre émission, Monsieur Benchet.
Je vous en prie. C'est nous qui sommes ravis de vous accueillir. Quand je dis nous, d'abord nos amis auditeurs qui vous en savent gré, et ici l'équipe de l'émission. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Aujourd'hui, nous avons parlé à la fois de géopolitique, de rapports internationaux, mais aussi de théosophie, et tout cela dans un entretien passionnant avec Marie-Hélène Cayol, présidente du Laboratoire européen d'anticipation politique. Vous retrouverez cette émission, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture et sur l'application Radio France pour la podcaster, comme on dit maintenant. Et vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Daphné Abkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Jason Taous et la réalisation est assurée par l'ami Franck Lila.
چه